Avant de passer à la période de questions, nous avons demandé à notre conférencier de ce matin, M. Plenel, de faire un bref commentaire qui pourrait en partie clore cette partie de la journée, lancer le débat. On ne va pas prédire ce qu'il va dire, comme parce qu'il nous a dit, il nous a interdit de prédire l'avenir. Mais allez-y, M. Plenel.
Le dernier panel, là, ce que dit Madame Dunlap et Monsieur Picard, est en continuité avec, au fond, ce qu'on a posé dès ce matin, qui est que la question essentielle, c'est la question de l'offre, du contenu, avant le modèle d'affaires, avant le modèle économique, et c'est la question du public, donc de la confiance. Le petit parallèle que j'ai fait avec la deuxième révolution industrielle, et en citant Robert Park, de Chicago, qui a été 50 ans vraiment city reporter, hein, avant de fonder l'école de sociologie, où il a dit à ses élèves sociologues, soyez journalistes, n'est pas un hasard par rapport à ce que vient de dire M. Picard. Il disait, il a eu un projet de journal parrainé par le philosophe John Dewey qui s'appelait Thought News. Comment penser les nouvelles, hein? Nous sommes dans ce moment-là où il faut réinventer, au fond, peut-être et toutes les offres doivent être réinventées de manière peut-être plus sélective, plus complémentaire. Et de la même manière que, évidemment, nous sommes aussi dans ce moment où il faut continuer à conquérir notre autonomie. C'est pour ça que ce qui n'existe pas chez nous et qui existe chez vous, des non-profit organizations, des sociétés à but non lucratif, est un enjeu essentiel pour la rencontre entre les professionnels et des acteurs économiques, financiers, cet enjeu démocratique. Par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai quatre questions rapides, et qui sont en continuité. Je suis d'accord avec M. Henrich ce matin pour dire l'aide de l'État est « last refuge ». Ok, le dernier refuge. Mais si nous pensons qu'il y a un enjeu démocratique, nous ne pouvons pas considérer que la puissance publique doit s'en désintéresser. Je suis très critique des subventions directes qu'il y a en France, et notamment de leur opacité. Nous menons d'ailleurs une bataille, c'est assez étonnant dans le milieu de la presse, pour leur publicité aujourd'hui en France, et nous nous heurtons à la presse traditionnelle. Mais s'il s'agit des aides indirectes, par exemple, en Europe, vous avez ce qu'on appelle, je ne sais pas quel est l'équivalent en anglais, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est, dans toutes nos démocraties, différente pour la presse, parce qu'on considère que c'est une aide non pas à la presse, mais à la lecture. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, qui a une plus vieille culture démocratique que nous, n'a pas de TVA sur la presse écrite, 0%. En France, c'est 2,1% au lieu de la TVA qui est 19,6. C'est-à-dire cette aide indirecte en disant sur ce produit-là, je taxe moins ou je ne taxe pas du tout. Et l'on pourrait se poser, j'ai lu le rapport qui est en dernière page du supplément du Devoir, cette idée que les lecteurs pourraient être incités à pouvoir défiscaliser leur abonnement et aider pas. Et là, ce n'est pas une aide directe à la presse, directe au titre, mais une aide indirecte, non pas aux journaux, non pas aux journalistes, mais à la lecture. Donc là, il y a une question quand même sur un rôle économique que peut avoir la puissance publique dans un secteur important, démocratiquement important, comme accélérateur. Deuxième question, et la question du public et des lecteurs. Madame Perséphone Miel, ce matin, j'étais entièrement d'accord avec elle, soulignait qu'il, c'est un peu ce que nous avons voulu faire, il y a des journaux et un travail du journaliste, et n'ayons pas d'illusions sur l'idée que le participatif autour serait infini et serait à lui seul créateur d'informations. Il n'empêche qu'il y a là, dans cette dialectique, si chacun est à sa place, pour moi, une question essentielle pour créer un nouveau modèle. C'est-à-dire, c'est pas le participatif d'un côté, tout le monde sur ses blogs, et puis les journaux de l'autre. Nous devons créer l'alliance des deux. C'est comme ça que le public sera là. Il faut qu'il soit avec nous à notre niveau. Et en ce sens, c'est ce que j'ai voulu dire en disant que le numérique, quel que soit nos modèles, sera au cœur, parce que c'est lui qui permet ça. Il permet des pages débat, d'opinion, des op-ed, de manière infinie. Il permet un courrier des lecteurs de manière infinie. Il permet cette dynamique de la confiance. Troisième et avant-dernière remarque, sur la question des revenus posée par M. Picard. Nous connaissons notre modèle ancien de la presse, l'achat et la publicité. Je défends l'achat et je pense que l'erreur historique qui explique beaucoup des drames de la presse américaine notamment a été cette schizophrénie du paiement sur le papier et de la gratuité sur Internet. Ça a accéléré la crise. Ça a été un facteur supplémentaire de crise. Mais la question de la publicité, premièrement, sa valeur ne sera plus la même. Sa rentabilité ne sera plus la même. Nous savons dans notre activité qu'elle est déjà cyclique tous les 5 ans, mais elle sera atteinte par cette révolution industrielle. La publicité elle-même doit évoluer. Regardez ce que vient de faire Pepsi-Cola. Vous avez vu, ils ont renoncé à une grande campagne, je crois que c'est au moment du Super Bowl, et ils ont décidé de faire une publicité participative. Pepsi Refresh the World, c'est-à-dire vous contribuez à choisir les projets que Pepsi va financer. Et ce n'est plus une campagne d'affichage, de campagne directement de Pepsi. Même la publicité elle-même bouge par rapport à ça. Et enfin, dernière interrogation, est-ce que cette publicité figée de la presse papier, je mets un encart comme ça, aura toujours la même pertinence à l'époque du numérique et du lien hypertexte? Qu'est-ce qu'on fait sur le net, sur le web? 3 choses. On cherche des informations, on fait du réseau social et on fait du commerce. Et au fond, je n'ai pas une publicité qui va m'intéresser sur le web. C'est le lien qui me permet d'acheter directement. Quel est le succès de Google? C'est la publicité qui n'a pas l'air d'une publicité. C'est un lien. Et un lien qui m'amène quelque part où je peux acheter. Ma question que je pose à l'économiste, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement une recette complémentaire qui est le e-commerce? Je lis la chronique d'un livre sur le site du Devoir. Je clique sur le livre, je vais l'acheter. Comment est-ce qu'il n'y a pas une autre recette complémentaire qui n'est pas la publicité, mais accéder directement au commerce? Enfin, et là je voudrais juste souligner, ce n'était pas une question ce que vous avez dit, et là ça rejoint un point qui a été soulevé dans le débat avec Anne Niva tout à l'heure, l'individualisme de notre profession, qu'il s'agisse des journalistes ou des businessmen. Nous sommes dans un moment où la coopération est en effet essentielle. Je prends un élément, tout ce qu'il y a de plus clé, qui est les modes de commercialisation sur Internet, qui ne sont pas encore tous au point, clairement, et évidemment les modes de distribution, j'ai parlé de la tablette, de l'iPad, etc. Si nous voulons éviter la concurrence de tous contre tous ou être dépendants de gros monopoles, c'est le débat sur Google aux États-Unis avec la presse comme en France, hein, eh bien il nous faut aussi créer des laboratoires communs, des recherches et développements communs. Il nous faut évidemment réinventer ces participations. Et vous avez entièrement raison, l'avenir pour la presse, c'est la syndication. C'est que des journaux se créent dans des spécialisations, dans des complémentarités différentes, et que le numérique facilitant totalement l'échange, ce soit la syndication. Dans le cas de notre petit pays, où il y a un schisme essentiel et catastrophique entre la presse nationale et la presse locale, la révolution va venir de là. C'est le lien entre le local et le national. Et donc, la question de cette coopération. Donc voilà mes 4 points. Le rôle de la puissance publique et un débat avec nos amis de Toronto. La question du public où je ne crois pas à l'idée d'une lecture à 2 vitesses, je crois, dite par Poulet, je crois plutôt à l'idée d'une nouvelle alliance. Et la question des revenus, est-ce que il ne faut pas aller au-delà du modèle ancien de la publicité? Et enfin, en effet, pour soutenir cet appel à la coopération et à ce que notre profession arrive à recréer des dynamiques collectives dans un moment de crise. L'individualisme, il fonctionne très bien quand tout le monde est riche et que tout va bien.
la crise crée cette division, elle les aggrave et il faut trouver. Nos amis de Toronto ne sont pas encore inquiets, mais attention, ça arrive aux autres aussi.
Merci.
Would you two like to respond? There's a lot there.
I'll start with the first one. As I understood it, it was the matter of state support, how much help from the government. 2 weeks ago, Poynter had its first seminar that was financed by the government, in effect. It came through stimulus funds, and it was to teach digital training for entrepreneurial programs. It wasn't on journalism, used our skills, used our building, and it said that we had gotten over the shock of the idea of taking government funds. The funds were partially laundered through a local organization, but it was stimulus funds. I'm still opposed to the idea of news organizations. I'm not comfortable with the idea of news organizations using government funds. I think the difficulties are too present, that there's so much risk. Governments change, political officials change. You can look at countries that don't have democracies and see the damage done when a media is not free to operate. And so of all that's in the mix now and all that goes forth, one thing that I would hope that there are very slow steps for news organizations to move into government funding, and behind that, to move extensively into government funds.
Yeah, certainly, I mean, the state plays a role in every country, including Canada, and in most countries, indirect aids are far beyond the aids that are given in direct aids. Whether it be tax relief, whether it be transportation rate advantages, in many countries, for instance, state railways have reduced rates for transportation of newspapers. Postal rate advantages have been all there. The United States, which is almost as a free market as Canada, has about 16 different categories of state aid toward news organizations. And the U.S. always, oh, we don't have any state aid. Well, they don't see it because it's not direct subsidy, and so they don't look at it in the same way. So certainly there are ways to use it. I'm not opposed to it. The problem with state aid comes, as was just said here, where there's discretion involved in whether to give it or not. The other problem that occurs with state aid is dependence, and that is that you can actually become so dependent on state aid that you don't do other things. And now I'm working in Sweden, where I've studied and worked with the government there since the 1970s on their state program, and they have, in fact, the largest array of state intervention, including a lot of direct intervention that exists. We've actually been able to document where newspapers will deliberately lose money at the end of the year because they will get more aid in the next year. Now, you know, there's something wrong in that formula when you start worrying more about this money you're getting from the state than what you're getting from your consumers and other such things, you know. So there are some problems that occur. In terms of the issues of the model, and we are changing the model. I mean, we're basically in a two-revenue model. We weren't always. I mean, even 50, 75 years ago, it was not unusual in a town that a newspaper in the town also owned the bookstore, maybe even owned the travel agency because they had all the ads and everything for the travel agency. So they were taking money there for that, general printing services. Over the last 50 years, we basically shed those and just focused on what we do best, which is printing the newspaper. And we've allowed ourselves to then become very dependent on advertising, which is now dropping. The real problem that's occurring with ad revenue is twofold. It's not the single underlying one is not just that newspapers are not getting as much advertising, but advertising is becoming much less important for marketers. If you look at the 250 largest companies in Europe and North America, only a third of their marketing expenditures go to advertising. It's all going to other forms of direct sales, direct marketing, sponsorships, other such things, where, in fact, they get better return on investment. And so there's this underlying shift going in the way they're putting their money and what they're doing with it. Now, one of the problems that occurs online, and online is growing, there's no question that online is growing, but it's not very good for retail advertisers. Online advertising is excellent for brand advertising, creating awareness. It's excellent for linking with people when they already know they want to buy something and are looking for something and are looking for a particular seller of something, but it's not particularly good for retail advertisers. And newspapers get about two-thirds of their income from retail advertising. And as long as that those retailers need to be in print, newspapers have an advantage or have some protection in that. I once upset a World Association of Newspapers conference by pointing out that the primary business they're in is not journalism but in ad delivery, and that didn't go over very well. But the fact is, if you actually look at the underlying financing of the industry, that's what's driving it and how it works. Now, the question of e-commerce was an interesting one. In about 1995-96, as the Internet began developing, in fact, most publishers' organizations thought that e-commerce was the way that they were going to finance online activities. It didn't work very well for them, partly because they didn't do it very well. But you're right. I mean, there are a lot of things that we do in newspapers that have the potential for e-commerce, even separate from general e-commerce that you might do. But journalists aren't happy about this. Journalists are very happy doing reviews of CDs, but not really happy if there's a link there next to it that says buy it. They're very happy to have movie reviews and restaurant reviews, but don't want something next to it that says, well, would you like a book, a table, or a ticket? Which is a very strange kind of thing, because the two don't necessarily have to be conflicting activities. And we know this, for instance, that some of the best viewed films in the world, in fact, are ones that reviewers have universally panned. So there's the idea that there's such great influence there is not an issue. So.
Let me just add a little bit on e-commerce, too. Let me just say, big picture, I don't think the problem is the industry finding the answers. I think it's the industry finding the bridge until it can find the answers. And some won't make it. Many won't make it. But if it has the time, they will find the answers. There will be new forms of e-commerce. One that I'm not clear about why it hasn't happened is more of a one-to-one approach in advertising. Why doesn't my news organization that brings me the news, why doesn't it also tell me, don't forget, you know, your husband's birthday is coming up tomorrow, and you know he likes the Dallas Cowboys, and here's where you can get something like this. The technology for so much is there, and it's not being used. And so I think when you see a greater creative spirit, part of that is based on giving up on the old and realizing there's a lot new there. I think we'll see so many changes in e-commerce and other areas. They will come. It's just getting there that's the problem.
Okay. Nous